De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique. C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va chroniquer des films en salle depuis le 18 et 25 septembre. On va écouter une interview et jouer à un blind test. Sommaire exaltant. Bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour.
Alors de quoi on va parler?
Alors pour moi, eh bien, ce sera une saga familiale agricole. D'un côté, le nouveau film avec Guillaume Canet qui s'appelle Au nom de la Terre. Et de l'autre côté, une histoire de conquête spatiale, Ad Astra, le nouveau James Gray avec Brad Pitt.
Et toi Manu?
Ce sera Ceux qui travaillent, hein, le premier long métrage français d'un cinéaste suisse, Antoine Rusbach. Et puis le nouveau film de Roger Avary, Lucky Day.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai de Bacurao, de Kleber Mendoza et Giuliano Dornel, grand prix du jury à Cannes cette année. On pourra les écouter d'ailleurs, hein, parce qu'ils étaient en conférence de presse là-bas. Je vous parlerai aussi de Port Authority en compétition, Un certain regard à Cannes également. Et puis le jeu, eh bien, ce sera un blind test spécial Adèle Hanel, qui est dans Portrait de la jeune fille en feu actuellement au cinéma. Ainsi débute Cinérama avec un film, alors sans doute de science-fiction, oui, on peut le dire.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Que pouvez-vous nous dire du projet Lima?
Qu'il avait pour but de trouver une vie extraterrestre avancée. Le vaisseau a disparu environ 16 ans après son lancement.
Et au sujet de son capitaine?
C'était mon père, mon général.
Alors, j'imagine que vous parlez évidemment tous les deux couramment latin et que vous savez ce que signifie Ad Astra. Très bien. Alors, oui. Ad Astra, donc, est la version courte de l'expression latine Per Aspera Ad Astra, qui signifie donc vers l'infini et au-delà. Et c'était également la devise de Buzz Éclair dans Toy Story, si vous vous en rappelez bien. Roy McBride, dans Ad Astra, donc, interprété par un Brad Pitt à la mâchoire serrée et aux yeux humides, est un excellent astronaute entièrement dévoué à son métier que l'on envoie aux confins de Neptune pour une mission secrète. Nous sommes dans un futur proche, précisons-le, et le système solaire a déjà largement été exploré, mais pour Roy, dont le père a disparu il y a bien longtemps, ce voyage va ressusciter le passé.
Je détruirai le projet de fond en comble. La Terre avait placé ses espoirs en lui. Désormais, c'est à moi qu'elle confie son destin.
Nous avons un travail à faire. Es-tu prêt? Je suis prêt.
Nouveau long métrage de James Gray, dont on attend encore qu'il fasse un mauvais film, et ce ne sera pas pour cette fois. Ad Astra s'inscrit dans cette lignée de films de science-fiction intimistes, dans lesquels la conquête spatiale rejoint l'exploration intérieure, telle que Solaris de Tarkovsky ou plus récemment Interstellar ou Premier Contact. Alors, comme pour mieux souligner que l'époque des blockbusters spatiaux, musclés et décérébrés est révolue, James Gray a eu la bonne idée ou la cruauté de rappeler Liv Tyler, qui interprétait la fille de Bruce Willis dans Armageddon, et de ne lui donner qu'une seule réplique d'ailleurs dans Ad Astra. Dans Ad Astra, la notion de film SF intimiste est poussée à son paroxysme. Grâce à la voix off, nous sommes totalement avec Brad Pitt, enfin donc avec Roy McBride, dans sa tête, aux prises avec ses doutes, avec ses interrogations. Et James Gray, eh bien, à travers Brad Pitt, nous livre une vision de l'humain assez défaitiste. Hein. Les humains étant, d'après lui, je cite, « des dévoreurs de monde ». Les hommes ont beau tenter de conquérir d'autres espaces, ils ont beau partir aussi loin qu'ils le peuvent, ils restent soumis à leur nature qui n'est pas très bonne. C'est ce que l'on voyait déjà dans la filmographie de James Gray, notamment dans The Immigrant avec Marion Cotillard, qui partait chercher une vie meilleure aux États-Unis et qui se retrouvait dans un New York totalement corrompu, ou encore dans The Lost City of Z. Ad Astra, en parallèle de ses questionnements existentiels, est un film à l'esthétique assez irréprochable. Je pense avoir rarement vu, moi, un film de science-fiction aussi bien éclairé. Et en même temps, eh bien, l'image, l'esthétique du film n'est pas lisse, comme c'est le cas dans presque tous les films de SF. Les décors sont très réalistes, ils sont abîmés, ils sont salis, ce qui donne un espèce d'aspect authentique, ce qui est finalement assez paradoxal dans un film censé se passer dans le futur. Et puis, Ad Astra, eh bien, c'est un film qui ose être lyrique, avec une musique quasi omniprésente. La mise en scène est réellement poétique, sans pour autant être contemplative. Et moi, j'étais très fatiguée en allant voir ce film. Et je pense, figurez-vous, que la torpeur dans laquelle j'étais, eh bien, n'était pas en contradiction avec la lenteur du film. Moi, j'étais en quelque sorte bercée par l'image, par la voix de Brad Pitt. J'étais un peu transportée comme ça dans une sorte de voyage spatial et en même temps dans un voyage intérieur. Donc je pense que James Gray a totalement réussi ce qu'il voulait faire.
Et tout cela sans produit, on le précise. C'est important évidemment, pour l'expérience. En tout cas, tu as raison de...
C'est une réussite, hein. Vraiment pour moi c'est une réussite totale. Après, encore une fois, bien sûr, mais ça évidemment je pense que ça tombe sous le sens, il ne faut pas aller voir Ad Astra en s'attendant à avoir un blockbuster avec un Brad Pitt musclé qui va sauver le monde. Hein. Ça n'est pas du tout le propos du film.
Et tu as bien raison de préciser qu'on attend toujours le moment où James Gray va vraiment rater un film, parce que le précédent avait eu des critiques un peu mitigées, mais voilà. Allez, on passe alors de la projection dans un futur à une description du monde moderne.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
La vie sans travail, je ne sais pas ce que c'est.
T'es pas au travail ? T'attends quoi pour me dire ce qui se passe ?
Alors dans Ceux qui travaillent, le film débute par des images routinières. Hein. Frank se lève, accomplit mécaniquement ses gestes quotidiens. Il réveille ses enfants, boit son café, embrasse sa femme, prend sa voiture et se dirige au travail. Il affiche une certaine fierté lorsqu'il rentre dans les bureaux de son entreprise où il occupe une fonction de cadre. Alors toute son existence est consacrée au travail. Il est parti de rien, sans diplôme, juste avec la persévérance d'un homme qui a grandi dans une ferme au milieu des bêtes, victime d'une éducation archaïque. Alors il a gravi les échelons par obstination et esprit analytique, sans émotion, un homme dénué d'imagination mais pourvu d'un sens pratique dans l'action et dans l'anticipation. Alors mais cette anticipation, cette manière de prendre des décisions compliquées, va le confronter à un dilemme éthique, moral même. Alors qu'il doit faire face à un problème lié à l'acheminement d'un cargo, Frank prend une initiative, seul, sans en référer à sa hiérarchie. Cette prise de risque va lui coûter son poste. Le sentiment de trahison ébranle Franck, qui n'en revient pas de la lâcheté de ses supérieurs. Ce choix, il ne l'a pas fait pour lui, mais pour le bien-être de sa boîte, à qui il a tout donné depuis plus de 20 ans. Cette sortie de route brutale pour cet homme le plonge dans la honte et le désarroi. Il n'arrive pas à l'annoncer à sa femme et ses 5 enfants, habitués à un train de vie confortable.
Pourquoi elle te l'a dit ?
Il nous dit tout. On acceptait de vivre sans père, mais on n'acceptera pas de changer notre niveau de vie.
Je suis désolé, on a vraiment rien chez nous.
Il faut que vous me donniez une seconde chance.
Je suspecte que vous ne puissiez vous épanouir réellement qu'au travail.
On a un poste à pourvoir et on aimerait que ce soit vous.
Ce sont des opérations très rentables. Je ne te cache pas qu'elles sont risquées.
Je ne veux plus faire ce genre de choses.
Tu veux combien ?
Une bande-annonce comme un thriller. Hein.
Oui, mais il n'y a pas de musique dans le film, donc c'est un peu trompeur. Hein. On reste quand même sur le créneau du film social, même s'il est un peu différent de ce qu'on a vu récemment. Alors, dans l'effrayant ouvrage « La question humaine », adapté au cinéma par Nicolas Klotz, François-Emmanuel dresse un portrait glaçant d'une entreprise où il met en parallèle le système capitaliste d'une entreprise de chimie avec les méthodes rationalisées technocratiques du génocide allemand sous le Troisième Reich. Alors, sans aller si loin et en resserrant la problématique à un cas de conscience individuelle, Antoine Rusbach, alors qui signe là son premier long métrage, en reprend pourtant un des fondements idéologiques, à savoir la déshumanisation du monde du travail, alors broyé par la machine capitaliste, où la vie d'un homme devient superflue quand des millions sont en jeu. L'intelligence du scénario n'a jamais bifurqué de ses intentions initiales. Le récit ne l'a jamais le personnage principal, Franck. Il est d'ailleurs de tous les plans. Le personnage devient touchant dans sa déchéance, même si les auteurs savent garder une distance, une ambiguïté. Son acte monstrueux transforme son quotidien en calvaire, mais les scénaristes se gardent bien de nous donner toutes les clés en main. Alors Franck, sonné, abasourdi par son licenciement, ne comprend pas l'ampleur de son acte dans un premier temps. La vie d'un individu qui, de plus, est un migrant dans le film, hein, à des milliers de kilomètres, ne pèse pas lourd pour remettre en question tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a légué à sa famille, comme la sécurité, le bien-être, l'illusion du bonheur. Alors d'abord choqué par les révélations du père de famille, cette famille d'ailleurs finit par s'arranger avec cette réalité insupportable, car il faut bien payer les factures, acheter un portable neuf, sauver les apparences en fait. Hein. Ces petits arrangements avec la mort qui devient abstraite vont peu à peu contaminer la psyché du personnage, coincé entre la possibilité de rebondir en choisissant un poste, tout aussi méprisable d'ailleurs, ce qu'on lui propose par la suite, et l'envie de comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors l'échappée belle avec sa fille laisse par ailleurs un possible avenir, une reconstruction personnelle, mais verrouillée par un épilogue glaçant ramenant l'aliénation au cœur d'une une existence consumériste que personne ne veut abandonner. Alors n'ayons l'air de rien, faisons comme si tout était normal. La famille apparaît d'ailleurs comme une sorte de casse monstrueuse qui rappelle étrangement un film de Cronenberg, History of Violence. Et c'est assez troublant. Alors la mise en scène rend très bien compte de cet enfermement idéologique et culturel dans lequel Frank s'est interdit tout échappatoire. La caméra colle à la peau de ce cadre, étriqué dans son costume, toujours enfermé dans des lieux clos, représentant son espace mental. Alors entre l'intérieur de sa voiture, les bureaux sans âme, la déco d'une villa qui est tout droit sortie d'un catalogue Ikea, la photo, tout en couleur terne, intensifie cette sensation d'asphyxie. La forme très frontale confronte notre regard à l'absurde folie d'un système capitaliste interdisant l'empathie au nom du rendement, de la compétitivité. Alors au-delà du portrait, je dirais, ambigu et émouvant d'un homme qui perd pied, Ceux qui travaillent est pour moi un grand film politique, peut-être le meilleur film français, porté aussi par un acteur, Olivier Gourmet, qui est réellement impressionnant, qui trouve là pour moi son plus beau rôle depuis un film des Frères Dardenne, qui était donc Le Fils.
Bon, est-ce que lui aussi, il a déjà été mauvais? On n'en saura rien.
Oui, il a été mauvais des fois. Je l'ai vu mauvais dans un film de Kiyoshi Kurosawa, qui est pourtant un grand réalisateur.
Ah. Allez, c'est l'interview de cette émission. C'est le prix du jury à Cannes. C'est Bacurao.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinerama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
C'est le film qui m'a le plus enthousiasmé à Cannes, Bacurao de Kléber Mendoza et Giuliano Dornel. On est reparti donc avec le prix du jury ex aequo avec le français Ladjili pour Les Misérables. Un prix mérité pour deux films ouvertement politiques mais qui prennent alors deux biais bien différents. Dans le film français, on est en banlieue dans un espace alors hyperbalisé, alors que dans le film brésilien, on est au milieu de nulle part dans ce grand pays qu'est le Brésil, en terre aride. Bacurao, c'est le nom d'un village qui n'est plus visible sur aucun GPS. Alors s'il n'y avait que ça, mais leurs habitants vont devoir lutter pour leur survie. Alors bienvenue dans une dystopie qui ne regarde pas de très loin quand même les événements que vivent les Brésiliens avec l'élection de Bolsonaro, un grand ami du président Macron. Alors difficile d'en dire plus sans en dire trop. Quand je me suis installé devant ce film, moi j'en savais rien. Et sous ces allures de film à tendance ethnographique qui nous fait découvrir les us et coutumes de la ruralité, aux prises avec une jeune héroïne venue de la ville, eh bien on plonge petit à petit dans le western pour aller jusqu'au slasher. Mais attention, un slasher atypique où le bourreau n'est pas clairement identifié, laissant libre le spectateur de se figurer qui peut bien se cacher sous des traits aussi cruels et abjects. Bacurao a avec lui la lumière, les acteurs, un sens aigu de la narration et des personnages radicaux propices à une fantaisie politique qui finit par être jouissive par la place qu'elle laisse à la résistance menée par les plus opprimés. Alors Bacurao est une œuvre forte qui place le cinéma non seulement dans l'exigence, celle de combler un spectateur, mais aussi dans notre temps en n'omettant pas de parler de sujets contemporains auxquels ce spectateur peut se raccrocher. On écoute les deux réalisateurs, Kléber Mendoza Filho et Giuliano Dornel, alors qu'ils étaient à Cannes, donc en conférence de presse, où nous étions également.
Que pensez-vous pour vivre, mes filles? Sois fou.
We actually started developing or thinking about the film back in 2009.
À réfléchir à ce film en 2009.
And it's very important that
it
shouldn't sound dramatic at all. I went on to do other things.
Ce n'est pas du tout quelque chose de dramatique. J'ai fait plein d'autres choses entre-temps.
I wrote Aquarius.
Et puis j'ai écrit Aquarius. Je l'ai filmé, je l'ai monté. Et puis on a fait plein d'autres choses encore.
And sometimes we would get together.
De temps en temps, on se réunissait
developing Bacurao, me and Julian.
Continuer de d'écrire Bacurao, on a écrit le film un petit peu comme une obsession au fil des ans.
After Aquarius, we really
et après Aquarius, on s'est focalisé davantage sur ce film.
And that's when we finally came up with the final,
puis, à ce moment-là, on a trouvé la version finale du scénario.
Comfortable to shoot.
Ce scénario avec lequel on se sentait bien à l'aise au niveau du tournage. Mais ça a été un processus assez long, une gestation longue, mais fort agréable.
Deux motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em 12 minutos.
Je ne pense pas que le film soit une projection vraiment précise de ce qui va se passer à l'avenir, mais on a nos sentiments. On a palpé l'ambiance dans la société actuelle. Et ce n'est pas quelque chose qui soit limité au Brésil. Regardez le monde d'aujourd'hui. on a l'impression que c'est le genre de choses qui auraient pu se passer dans les années 70, 80. C'est un petit peu de la science-fiction telle qu'on l'a vu dans les années 60. Il y a des éléments dans le scénario qui nous ont surpris, en fait. C'est comme si la réalité rattrapait le scénario. Et quand ça s'est passé,
up to 11 and went
on
a little
dit,
over the top,
bon,
which
on,
we
on va aller encore plus loin, on va vraiment s'amuser, et c'était génial. Le Brésil ressemble à bien des égards au quotidien à une dystopie.
Tant qu'il peut dire, je te pousse.
Qu'est-ce que tu fais?
The movie as our weapon.
Ce film est notre arme.
This is really beautiful to see. This is our answer. This is our.
C'est notre réponse. C'est notre façon de manifester, de protester.
When you see this movie, this incredible movie.
En voyant ce film incroyable que nous avons réalisé ensemble, on s'aperçoit qu'on montre tout, on dit tout, et on le fait avec amour. C'est ça le plus important pour nous, pour moi en tout cas.
And as Kleber said,
et comme l'a dit Kleber. C'est un moment idéal que ce film sort. Nous avons tourné 3 mois, jour et nuit. C'est aussi pour ça que nous avons pleuré, car ça a été un travail dur. Nous avons voulu montrer à tout le monde que tout cela vient du cœur. Ça, c'est notre arme, c'est notre pistolet, c'est notre façon de lutter, de protester, en faisant de la culture et en essayant de former les gens. C'est un bon film.
All of the world should watch it.
Je pense que le monde entier devrait le voir.
Você quer viver ou morrer?
Toujours intéressant hein, d'écouter des réalisateurs qui ont des choses très précises à dire sur leur œuvre. Kleber Mendoza et Juliano Dormel, donc pour Bacalao, en salle depuis le 25 septembre, tout comme Au nom de la terre, avec Guillaume Canet, La détresse du monde paysan, avec un Guillaume Canet quand même devenu chauve.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Il faut s'en sortir. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de partir.
Moi, papa, je prendrai la suite au grand bois.
Hein. C'est fini, les grands bois. Si tu passais.
Pierre est agriculteur, comme son père, et vit heureux dans sa ferme, entouré de sa femme et de ses enfants. Mais l'agriculture et l'élevage évoluent, se modernisent pour répondre aux lois du marché. Et Pierre, peu à peu, perd pied. Le film, qui établit un glaçant constat sur l'évolution du monde agricole au cours des 40 dernières années, s'ouvre sur un plan très large d'un champ labouré qui semble sans fin et au centre duquel avance le personnage principal, comme perdu sur cette terre immense à laquelle il appartient autant qu'elle lui appartient. C'est le premier film de Édouard Bergeon et c'est un film totalement autobiographique hein, puisque Édouard Bergeon est lui-même issu d'une longue lignée de paysans et qu'il a vu son père se suicider après des années de bataille pour faire survivre sa ferme face à la modernisation galopante de l'agriculture. Son père est ici interprété par Guillaume Canet, qu'on avait laissé sur la côte basque, il me semble, c'est ça, avec ses amis oui. Très bourges, c'est ça.
En première ligne.
Et qui nous revient avec une fausse calvitie, ce qui n'est pas son meilleur look, mais on sent qu'il veut son César très fort. Alors il y a une volonté de mimétisme hein, qui est sans doute un peu excessive, qui n'était pas forcément nécessaire pour raconter cette histoire finalement assez universelle, mais on sent que la volonté du réalisateur de faire revivre son père et sa descente aux enfers participe d'une sorte d'exorcisme. Autour de la calvitie de Guillaume Canet, une distribution excellente, Vierle Bittens, actrice flamande que l'on connaît surtout de Alabama Monroe, et Anthony Bajon également à l'affiche en ce moment de Tu mérites un amour de Avzia Herzi. Quoi que la mise en scène soit simple et efficace, on peut relever quelques maladresses dans ses choix esthétiques. Par exemple, l'étalonnage du film hein, fait la part belle aux couleurs assez pétantes, sans doute pour fuir l'image du film français austère. Ce que l'on peut amplement pardonner, hein, puisqu'il s'agit d'un premier film, et d'un film, on le sent, très sincère, qui ne tombe pas dans le misérabilisme, mais qui rappelle tout de même une réalité. Aujourd'hui, en France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours.
Monsieur Jargeau, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup, surtout cumulé avec l'ensemble des prêts.
T'es quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos?
On voit bien, là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père, il se la pète, hein?
Pareil que t'es dans la merde.
Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système...
T'étais jusqu'au cou dans le système.
Moi, au moins, j'étais libre.
Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu cherches?
Qui se démerde.
Au nom de la Terre, donc, en salle depuis le 25 septembre. Allez, c'est la partie jeu de cette émission, un blind test spécial Adèle Hanel.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Actuellement au cinéma, dans Portrait de la jeune fille en feu, film de Céline Sciamma récompensé à Cannes. Nous allons maintenant jouer avec la filmographie d'Aden Hanel, qui a seulement 30 ans. Voilà, peut-être que vous allez pouvoir deviner quelques-uns de ses films. C'est parti.
Bon, ça dépend du régiment que tu veux, en fait. Moi, celui que je veux, c'est un des plus durs, donc ils prennent pas n'importe qui.
Mais dur, genre quoi?
Bah dur, genre t'en chies. Genre, pour dormir, tu creuses un trou. D'ailleurs, de toute façon, tu dors pas. T'as du combat, t'as un parcours nautique avec 25 km sur le dos. T'as déjà nagé avec des Rangers?
Non.
En fait, pour rentrer, t'as un test. Tu dois manger une sardine crue. Tu commences par la tête, tu manges les yeux, les viscères, les écailles.
C'est ça que tu veux faire?
C'est eux qui ont les meilleures techniques de survie. Après, je serai vraiment préparé.
Et préparé à quoi?
Bah, à survivre.
Non mais ça d'accord, mais à quoi?
Ah, ça fout les chocottes un peu. Alors c'est...
Les combattants.
Oui, film de Thomas Caillet de 2014. Allez, c'est un peu plus loin maintenant.
Tu vois le maître nageur? Celui qui m'a fait les massages l'autre jour. Il me lâche pas, c'est dingue. On commence dans les vestiaires et tout. Il dit qu'il m'aime, tu parles. Forcément, à force de me voir au moitié à poil tous les deux jours, il pète un câble. Je l'ai embrassé aussi une fois, alors ça arrange pas les choses. Comme tout le monde le kiffe, j'ai pas pu m'empêcher de le faire pour leur foutre les boules à ces connasses.
Les autres, c'est des connasses?
Elles m'aiment pas, alors je les aime pas. C'est simple. Les filles, elles m'aiment pas.
Ça a grosse été ambiance.
Oui.
Ça a La été... naissance des pieuvres.
Oui, premier film de Céline Sciamma. Troisième extrait.
Tu es en stage ici, c'est normal que je te critique, non?
Oui.
Je veux juste que t'apprennes une chose pendant ton stage, une seule. Tu peux arrêter avec ta machine? Je veux que tu apprennes à faire un bon diagnostic. Si tu te laisses émouvoir par la souffrance du patient, tu perds la distance, tu fais un mauvais diagnostic.
Je t'ai dit, ça a été plus fort que moi.
Si tu veux être un bon médecin, tu dois être plus fort que tes émotions.
Une petite ambiance naturaliste avec les bruits des stylos, c'est...
La fille inconnue des oui. frères Varden.
Oui, film de 2016, un film qu'elle a fait 2 années après.
Je crois que je suis devenu un monstre.
Mais non. Mais croyez pas ça. Vous êtes pas devenu un monstre. Vous êtes un homme à qui on a fait du tort, voilà, beaucoup de tort. Et vous avez le droit à un peu de colère. Merde. Un peu de violence. Vous y avez droit. Vous y avez droit. Moi, à votre place, j'aurais envie de mordre.
Mais, ah bon? Attendez, mais il y a pas 2 heures, j'ai arraché l'horizon type avec mes dents.
Mais c'est normal.
Ah bon?
C'est pas grave.
Bah...
Soyez un peu indulgent avec vous-même. Vous n'allez pas vous en vouloir pour ça, et encore moins, vouloir mourir pour ça. Ça n'en vaut pas la peine.
Ah, ça a été trouvé une capitaine de police qui essaie de réparer les
C'était
choses.
C'était en liberté.
Oui.
Elle avait pas mal fumé entre 2018 et 2016.
Elle sortait de l'eau, là.
C'était pas la même voix.
Allez, dernier extrait.
Et la deuxième partie, c'est... ça raconte un mariage. Et c'est donc une grosse fête où, en fait, tout le monde se fait chier, tout le monde est complètement bourré. Et on attend un général qui a été invité, mais juste pour faire bien, quoi. Mais c'est quoi ce truc? Vous allez me mettre un sextoy?
Ça, c'est pour faire une échographie vaginale.
C'est un peu un truc de pervers, votre métier?
Non, non, c'est juste pour vérifier que le bébé a une belle tête bien faite.
Mais non, enfin! C'est pas du tout un truc de pervers, je mets les gardes, c'est tout, enfin! Ça te dérange pas, toi?
Quoi?
Que quelqu'un me mette un gode dans la chatte comme ça devant toi, ça te fait rien, quoi.
Détendez-vous.
Ça peut te faire plaisir.
On y va, doucement.
Oui, doucement, docteur, j'adore doucement.
Très étonnant, là, encore une fois, hein, entre C'était la naissance des pieuvres et c'est trouvé.
Les ogres de Léa Fener,
oui.
Je m'en rappelle bien.
Oui, c'est ça. Et c'est un film de 2016 avec beaucoup, beaucoup d'acteurs, donc on ne peut pas considérer qu'elle avait le rôle principal, mais en tout cas, elle avait un rôle dans ce film. Voilà, ainsi s'achève ce Brain Test spécial Aden Hanel. On rappelle que vous la retrouvez dans Portrait de la jeune fille en feu, au cinéma. On va parler maintenant bien d'un polar pop, c'est Lucky Day.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Le retour inespéré de Roger Avary derrière la caméra, ce devait être un petit événement. Alors pour nos auditeurs, rappelons qu'il fut dialoguiste sur Reservoir Dogs et co-scénariste de Pulp Fiction et surtout l'auteur d'un des plus grands films des années 90, Killing Zoe, polar qui mêlait les influences de la nouvelle vague avec un goût prononcé pour le bis déjanté. Puis il réalise un téléfilm avec Rutger Hauer et une adaptation culte du roman de Bert Easton Ellis, Les lois de l'attraction en 2002. Après un film inédit en France en 2004, Glitterati, Avary a disparu de la circulation, brouillé depuis des années avec Tarantino. Le voir revenir avec un petit film, toujours produit par Samuel Adida, producteur décédé l'an dernier, ravive des souvenirs émouvants, d'autant qu'on a l'impression que le temps ne s'est pas arrêté pour celui qui fut un des plus grands espoirs du cinéma américain. Lucky Depp paraît coincé dans une époque, un style, ce qui en fait à la fois son charme et sa limite. Le scénario, plutôt paresseux sur le papier, ne cherche pas à faire le malin. Il déroule les thèmes et obsessions du cinéaste. L'histoire en soi ne présente guère d'intérêt et ne dépareille pas d'une banale série B. Alors, le héros, Red, se prépare pour son grand jour. Il sort de prison après une purge de 2 ans pour un braquage qui a coûté la vie de son complice. Il retrouve sa petite famille, sa fille Béatrice et sa femme Chloé qui préparent une expo d'art contemporain. Des peintures de briques blanches, création un peu cathartique pour celle qui aimerait que son homme rentre dans le droit chemin. Mais c'est sans compter sur Luc, le frère de son ancien complice, psychopathe notoire, tueur à gages sans pitié et accessoirement admirateur de la France, au point d'adopter un accent anglais en se prenant pour un Français. Alors il débarque aux États-Unis avec le désir de venger son frère, hein, tenant Red pour l'unique responsable. Sur son passage, cet ange de la mort, au look cartoonesque, ne fait pas dans la demi-mesure. Il désingue sans état d'âme tous les pauvres innocents, ou pas, qui croisent sa route. Alors si l'intrigue tient en 3 lignes, le charme opère ne serait-ce que pour la manière dont Avary raconte cette histoire dans un esprit très pulp, tout en poursuivant son étrange fascination pour la langue et la culture française. À l'image un peu de la fille de Red, qui refuse l'anglais pour ne parler que dans la langue de Molière, ce qui nous vaut quelques séquences exquises. Alors la présence au générique aussi de Thomas Sizley, qui arbore une petite moustache hitlérienne, et de Nadia Farès renforce cette impression. Alors cet hommage bienveillant n'a rien de gratuit, tant l'univers d'Avary est imprégné pour une admiration, on va dire, toujours de la nouvelle vague. Et en premier lieu, Godard, avec qui il partage son goût des dialogues absurdes, des ruptures de ton, les digressions un peu intellectuelles, et puis les motifs visuels hérités du pop art. Alors, sans être un chef-d'œuvre, Lucky Day est un sympathique polar décalé, très greenhouse, se versant dans le gore à plusieurs reprises, et gratinant au passage le monde de l'art contemporain, mais avec davantage de malice c'est pas très rance non plus. La très belle séquence du carnage dans le musée où le sang gicle sur les toiles immaculées demeure un beau moment de cinéma et une jolie métaphore sur la création qui arrive par accident. Alors sinon, on peut noter la prestation de Crispin Glover, un comédien culte sous-estimé, qui jouait le père de Marty McFly dans Retour vers le futur. Il est un peu l'attraction principale de ce petit film vintage et sans prétention que moi je recommande.
Voilà, c'est Lucky Day en salle depuis le 18 septembre, un film qui, lui, est en salle depuis le 25, c'est Port Authority, et ça nous emmène à New York.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Port Authority, je l'ai appris en regardant le film de l'américaine Danielle Leibovitz qui porte le même nom. Et bien, c'est le principal terminal de bus de Manhattan, un lieu de brassage évidemment, mais aussi un lieu où la communauté LGBTQ se rassemble. Dans ce film produit par Martin Scorsese, il est bien question de cette communauté au travers d'un regard, celui de Paul, qui débarque à New York dans de ses zoos. Alors il pense trouver refuge chez sa demi-sœur qui lui refuse l'hébergement, mais qui veut bien quand même lui donner un peu d'argent en guise d'excuse. Alors tant mieux parce que ça lui permet d'errer un peu plus, et il tombe sur deux communautés qui n'ont rien en commun. Alors d'un côté, des jeunes hébergés en foyer qui lui proposent un boulot de déménageur. Enfin, c'est plutôt un boulot de videur d'appartement quand les gens n'ont plus rien à payer et que l'huissier est passé. Et puis d'un autre côté, près de ce foyer, il découvre l'univers inconnu des ballrooms. Alors il s'agit de lieux où la communauté noire LGBTQ, donc lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer, se danse à l'abri des regards et se lâche sur le voguing, un vieux mouvement qui est très à la mode en France actuellement. C'est le cas du musicien Kiddy Smile, qui a dansé à la Garden Party d'Emmanuel Macron. Et puis, c'est aussi cette danse du voguing qu'on voit dans le climax de Gaspard Noé. Alors, Paul, qui n'a vraiment rien à voir avec ce milieu, il n'est pas LGBTQ et pas noir, va s'y frotter en tombant amoureux de Y, une jeune femme transgenre. Celle-ci vit, elle aussi, dans une communauté, mais qu'elle a choisie. Alors, le film de Danielle Leibovitz, c'est d'abord une histoire d'amour qui pourrait combler les spectateurs les plus sentimentaux, on va dire. Et d'autant qu'évidemment, Paul est loin de se douter qu'il est tombé amoureux d'une personne transgenre. Si nous voyons tout au travers des yeux de Paul, nous voyons également ce qui lui échappe et ce qu'il cache. Le travail qu'il effectue avec les autres du foyer va le mettre en délicatesse avec la jeune Y. Alors plutôt que de confronter un homme issu de la minorité souhaitant intégrer une culture majoritaire, ici c'est le contraire. Dans une Amérique qui se pose encore des questions sur le genre, notre personnage qui fait partie de la classe dominante, les Blancs, va se sentir intégré dans une communauté communauté ultra minoritaire, voire opprimée, qui n'a rien, mais alors là, rien à voir avec lui. C'est là le point central du film. Lui, Paul, n'a pas de famille, alors que ceux qui gravitent autour des ballrooms, eh bien, s'en sont créés une. La famille, c'est ce pilier des États-Unis, enfin, au moins au cinéma. Famille, minorité, débrouille dans un New York qui exclut ceux qui n'ont pas les armes. Avec justesse et sans surlignage narratif, Port Authority brasse encore beaucoup d'autres éléments qui questionnent la société américaine, ou plus simplement, eh bien, nos sociétés modernes, où l'épanouissement personnel est mis en défaut. La simplicité avec laquelle le film avance contribue, eh bien, à nous immerger plus facilement dans la culture des ballrooms, une immersion exaltante. On a là un film indépendant américain bien construit, avec une direction d'acteurs qui laisse peu d'ombre. Et Lena Bloom, icône de la culture LGBTQ, qui interprète la jeune Wye, est pour beaucoup dans la vraisemblance que l'on peut accorder à cette histoire d'amour. Car s'il y a quelque chose qui est important, j'ai l'impression au cinéma, en tout cas moi, qui me paraît important en tant que spectateur, c'est quand les histoires d'amour peuvent paraître au moins vraisemblables.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma camp !
La semaine prochaine, deux interviews, celle de Mati Diop pour le film Atlantique primé à Cannes, et puis celle de Géraldine Nakache et les Labectiques que nous avons rencontrés pour J'irai ou tu iras. Et toi, tu as vu ?
Ben, je vais prendre un nouveau Rambo et puis une reprise, Long Week-end.
À la semaine prochaine.